Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants, car aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un écrivain. Nous sommes aujourd'hui hors des murs de notre studio, en terrasse d'un café à Montparnasse, pour ce dernier rendez-vous de la saison. Au terme de toutes ces rencontres radiophoniques et de nos chroniques, je vous propose un dernier grand voyage avec un auteur. Aujourd'hui encore, nous allons noircir un peu plus notre passeport littéraire. Nous allons prendre ensemble la et marcher sur les traces de l'histoire. Chagrin d'un chant inachevé sur la route de Che Guevara, c'est le titre de son dernier carnet de voyage publié dans la collection blanche des éditions Gallimard depuis mai 2025.
Bonjour François-Henri Desérables.
Bonjour Thomas.
Merci d'être à ce micro aujourd'hui.
Bah, je vous en prie, c'est un plaisir.
Ce voyage que vous avez fait, c'est traverser l'Amérique du Sud en vous inscrivant sur les traces du voyage réalisé par Ernesto Guevara et Alberto Granado. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir reprendre presque fidèlement ce voyage ?
Bah, y a deux choses. La première chose, c'est que je voulais voyager en Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que lorsque je me perdais dans la contemplation béate de la carte du monde, mon regard était très souvent porté sur l'Amérique du Sud et je lisais les noms des villes sud-américaines. Je lisais les noms de Caracas, de Buenos Aires, de Lima, d'Ushuaia. Et en fait, quand vous lisez ces noms-là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller voir, c'est d'aller voir ce que recouvre cette puissance d'évocation de ces toponymes. Donc j'avais très envie d'aller en Amérique du Sud, d'autant que j'étais un grand lecteur de littérature sud-américaine et j'avais lu notamment le récit de voyage d'Ernesto Guevara. Parce que Guevara, à l'âge de 23 ans, il décide de partir avec un de ses amis qui s'appelle Alberto Granado, qui a 29 ans, en moto. Leur moto, c'est une Norton 500 cm3 qu'ils ont baptisée la Poderosa, c'est la puissante, la vigoureuse. Et ils décident de faire ensemble le tour de l'Amérique latine. Ils partent de Cordoba, au nord-ouest de Buenos Aires. Ils passent par Buenos Aires, ils longent la côte atlantique, ils traversent la Pampa, ils arrivent au nord de la Patagonie, ils remontent tout le Chili, le Pérou, la Colombie, le Venezuela. Le voyage dure 7 mois. C'est un voyage qu'ils font simplement pour voir du pays, pour vivre une aventure. Mais ça n'est certainement pas un voyage à visée politique. Et au fur et à mesure de ce voyage, eh bien, quelque chose une sorte de basculement va s'opérer dans leur esprit. Ils vont changer, l'un comme l'autre. Granado comme Guevara. Il y a une certaine forme d'indignation qui va naître chez eux. Un sentiment d'injustice très fort quant au sort d'un certain nombre de Sud-Américains qui sont exploités et qui vivent dans des conditions misérables. Et donc ce qui m'intéressait, c'était non seulement de voir l'Amérique du Sud, mais aussi de montrer à quel point le voyage pouvait être transformateur. Et moi, c'était mon premier grand voyage. J'allais avoir 30 ans, j'avais 29 ans, je ne sais pas quel âge tu as.
23.
Donc j'étais un peu plus âgé que toi aujourd'hui. J'allais avoir 30 ans et je suis parti sur la route sans savoir que le voyage deviendrait en quelque sorte l'alpha et l'oméga de ma vie, l'ossature de mon existence. Et depuis, ça ne m'a jamais lâché.
Alors avant même de partir en voyage, vous nous révélez aussi un peu de la vie de ces deux jeunes hommes qui partent sur les routes. Notamment, après, dans leur jeunesse, après avoir quitté un peu les études, bien avant que la politique entre dans leur vie, quel parallèle vous faites entre eux et vous dans l'idée de arrêter les études et de peut-être prendre son destin en main?
Alors eux, donc Guevara, avait entamé des études de médecine qu'il a ensuite terminé lorsqu'il est rentré de voyage. Il a repris ses études de médecine, il a eu ses diplômes, il est parti dans un deuxième voyage sud-américain qui d'ailleurs l'a vu échouer au Mexique, où il a fait la connaissance d'un certain Raúl Castro qui était tout jeune et qui lui a dit « il faut absolument que je te présente mon frère Fidel ». Et un soir, il rencontre Fidel et il y a une très grande amitié et un très grand un respect mutuel qui naît entre les deux. Et quelques mois plus tard, sa mère lui dit, ce qui explique le titre de mon livre, sa mère lui dit « Mon cher Ernesto, maintenant, il est temps d'en finir avec tes pérégrinations. Rentre à Buenos Aires, établis-toi comme médecin, donne-nous de beaux petits-enfants, mène une vie paisible et nonchalante, etc. etc. » Et Guevara lui répond dans une lettre, il répond aussi à son père, donc il dit « Mes chers parents, j'ai fait la connaissance d'un jeune leader cubain destiné à libérer son pays par les armes. Désormais, mon sort est lié à celui de la révolution cubaine et je triompherai avec elle ou je mourrai là-bas. » Il conclut en disant « si je meurs, je n'emporterai dans la tombe que le chagrin d'un chant inachevé. » C'est en vérité un vers de Hikmet, qui est un poète turc que Guevara a lu en espagnol, « Solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso ». Mais quand on le traduit, eh bien, ça fait cette magnifique allitération en tché. Et moi, finalement, ce qui me rapproche de lui, c'est que lorsqu'il est en train de voyager, à un moment, Guevara écrit dans son journal « Je sais désormais que ma vie est d'être un vagabond, en quelque sorte, et d'être... Et que sa vie va s'articuler autour du nomadisme. » Bon, on a vu que sa vie avait pris un tour tout à fait différent. Il est devenu guérillero. Et ce qui m'approche de lui, c'est qu'il y a cette volonté, non pas de devenir guérillero, mais en tout cas de rester un vagabond.
Vous évoquez à un moment donné Cioran. Comme j'aimerais que tous les gens occupés ou investis de mission, hommes et femmes, jeunes et vieux, sérieux ou superficiels, joyeux ou tristes, abandonnent un beau jour leur besogne, renonçant à tout devoir ou obligation pour sortir dans la rue et cesser toute activité.
Ouais.
Ça m'a aussi fait penser à quelqu'un d'autre, un de vos confrères de voyage.
Qui ça ?
Sylvain Tesson.
Ouais.
Qui, dans Les Piliers de la Mer, le sous-entend, mais l'évoque quand même avec force, de dire il serait bien de faire un petit pas de côté, tel les stacks. Est-ce que, pour vous, il faut faire un pas de côté pour mieux vivre ?
Alors, bon, déjà, je voudrais dire que Sylvain Tesson est l'une des personnes les plus brillantes, les plus vives intellectuellement, les plus drôles, plus libres que j'ai rencontrées dans ma vie. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié. Lui, il a pris le parti de se rendre dans des contrées lointaines et souvent sauvages, que ce soit la Panthère des Neiges, que ce soit dans les forêts de Sibérie, que ce soit sur les stacks, que ce soit sur la mer. Moi, dans le voyage, je m'ennuie un peu si je me confronte simplement à la seule hostilité de la nature. Je finis par m'ennuyer et surtout, je n'ai pas la capacité inouïe que Tesson a de pouvoir tirer des aphorismes parfaits de journées où il ne voit absolument personne et où il s'emmerde totalement. Et je pense aux forêts de Sibérie notamment, à un moment où il dit cette phrase que je trouve superbe, « Le silence, c'est le bruit que fait le temps en passant ». Donc mon pas de côté, je le fais mais toujours dans l'espoir de rencontrer mon prochain. Parce que ce qui m'intéresse davantage dans les récits de voyage, c'est de pouvoir brosser les portraits des gens que je rencontre, c'est de pouvoir croquer les situations, des choses qui m'arrivent, des situations parfois cocasses, parfois tragiques, parfois drôlatiques. Mais si je faisais la même chose que Sylvain, et que si j'étais simplement confronté à l'immensité et à la splendeur de la nature, je crois que je ne serais pas en mesure d'en revenir avec un livre.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez aussi dans vos carnets de voyage, c'est de dire que vous faites complètement fi de description d'un magnifique paysage, vous préférez être dans le concret, comme avec l'humain, comme vous venez de dire, vous consacrez plutôt à ce qui vous arrive.
Bah ça, c'est un peu une marque, je trouve que c'est une marque d'humilité de ma part, quand même. Vous pouvez en convenir. C'est-à-dire que j'ai toujours peur que devant la splendeur d'un paysage, mes pauvres mots ne viennent pas lui rendre justice, en quelque sorte. Ne soient pas assez justes pour pouvoir décrire au plus près l'émotion qui m'a saisi. Et donc, parfois, je m'en sors simplement en ne décrivant pas, ou en l'envoyant, en le bazardant en quelques phrases. Alors, je ne fais pas toujours ça. Il m'arrive quand même parfois de me laisser comme ça,
oui, c'est ce que j'allais
percé
quand même vous dire.
Par cette extase panthéiste devant la splendeur de la nature.
Parce qu'à un moment donné, quand même, vous partez donc Pérou, Bolivie, le désert d'Uyumi, Copacabana. Vous écrivez ne plus vouloir revoir ces paysages, peut-être pour vous laisser surprendre, mais...
Alors, c'est pas tout à fait ça. J'écris que Shakespeare a cette très belle phrase où il dit « Il est plus de merveilles en ce monde que nos rêves n'en peuvent contenir. » Et je sais fondamentalement qu'il y a des endroits que j'ai trouvés absolument fabuleux, dans lesquels je me suis senti bien. Il y avait une certaine ataraxie, une quiétude de l'esprit, une jubilation d'être au monde, et qu'il y a peu de chances que je les revoie un jour. Parce que j'ai une curiosité qui est inlassable, parce qu'il y a d'autres endroits au monde que j'ai envie de découvrir. Mais cela dit, je vous dis ça, et depuis je suis retourné maintes fois en Amérique latine, depuis ce voyage inaugural. Je suis retourné plusieurs fois au Pérou, encore récemment j'étais au Chili. Et d'ailleurs, ce qui explique aussi le titre, c'est que ce chagrin d'un chant inachevé, c'est aussi ce sentiment qui vous étreint. Lorsque vous vous trouvez face à un paysage, ou face à un visage que vous avez aimé, et dont vous savez très bien que, eh bien, à un moment, il va falloir lui tourner le dos. Et moi, je l'ai ressenti très profondément lorsque j'étais à Cusco, qui est l'une des villes qui m'a le plus jeté de sortilège au monde. C'est-à-dire que j'avais l'impression que Cusco était une sorte de calypso qui voulait sans cesse me retenir auprès d'elle. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'arracher à Cusco, comme j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à m'arracher à Valparaiso, mais il a fallu le faire. Et à Cusco, eh bien, j'avais pris pour habitude, chaque matin, d'aller prendre mon petit déjeuner dans un marché qui s'appelle le Mercado San Blas, où je commandais toujours la même chose, des œufs brouillés et du jus d'orange, auprès d'une femme qui s'appelait Carmen Cita. Et il y avait une sorte de complicité muette qui naissait chaque jour entre nous. Et un jour, j'ai su que c'était mon dernier petit déjeuner, que j'allais devoir quitter Cusco. Et j'ai compris ce que Flaubert entendait par l'amertume des sympathies interrompues. Vous savez, dans l'éducation sentimentale, il a cette ellipse narrative qui est peut-être l'une des plus belles de la littérature française, où il fait voyager Frédéric Moreau pour marquer le passage du temps. Et il dit, il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, l'étourdissement des paysages et des ruines, les froids réveils sous la tente, l'amertume des sympathies interrompues, et il revint. Et j'ai cru comprendre, en quittant Carmen Cita, ce que Flaubert entendait par l'amertume des sympathies interrompues. Sauf qu'un an plus tard, ça n'était pas du tout prévu, je suis retourné à Cusco, j'ai voulu renouer avec mes bonnes vieilles habitudes, j'ai retrouvé Carmen Cita, alors que je pensais ne pas la revoir, et là, en me voyant, alors qu'elle ne m'avait pas vu depuis plus d'un an, elle me dit, des œufs brouillés et du jus d'orange, n'est-ce pas ? Voilà ce que j'aime dans le voyage.
Alors, est-ce que c'est ces petits éléments-là qui vous poussent justement à les faire faire en littérature ?
À les faire faire, qu'est-ce que vous entendez par là ?
À les traduire dans un livre.
Bah, disons que il y a une tentation à laquelle il ne faut pas céder lorsqu'on écrit un récit de voyage, c'est celle de l'exhaustivité. Et qu'il m'arrive plein de choses quand je suis en voyage où il y a plein de sensations qui me traversent, qui ne sont pas dans mes livres, auxquelles je ne donne pas leur poids de papier. Parce que même si elles sont intéressantes pour moi, elles ne vont pas forcément l'être pour le lecteur. Et donc je crois que l'une des difficultés, c'est de trier entre ce que l'on va mettre et ce qui va passer à l'as, en quelque sorte. Mais moi, je sais qu'il y a un écrivain qui a écrit un dictionnaire amoureux de l'aventure. Et ben moi, je pourrais tout à fait écrire un dictionnaire amoureux de la mésaventure. Parce que je pense que la mésaventure est quelque chose d'extrêmement fécond d'un point de vue littéraire. Et que une journée que vous allez passer allongé le cul sur une plage qui va être très belle à vivre, vous allez attendre que le soleil se couche et sombre dans l'océan, vous allez siroter des cocktails en lisant un bon bouquin, ben, c'est extrêmement agréable à vivre, mais à raconter, d'un point de vue strictement littéraire, on n'en a un peu rien à foutre. Alors que si vous vous retrouvez dans un barrio de Buenos Aires et qu'on vous met un tesson de bouteille sous la gorge...
Ce qui vous est arrivé.
Ce qui vous est arrivé. Si vous vous retrouvez en Iran, arrêté par les gardiens de la Révolution, à Saqqez, au Kurdistan iranien, et que vous vous retrouvez en garde à vue. Si vous vous retrouvez, à attendre des heures pour passer, pour franchir la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Si vous vous retrouvez, au fin fond de la jungle amazonienne, alors que vous n'avez plus de gourde et que vous commencez à boire, vous n'avez plus d'eau potable et que vous commencez à boire l'eau du fleuve Amazon en vous disant qu'après tout les locaux font pareil donc ça ne doit pas être si mal et qu'après eh bien, vous tombez gravement, enfin pas gravement mais
vous êtes malade.
Sérieusement malade, ce sont des mésaventures, ce sont des choses qui ne sont pas très agréables à vivre mais à raconter c'est formidable.
Le fameux sismographe dont vous parlez.
Oui, le stylo est un sismographe du souvenir. Je suis persuadé que tous ces voyages, toutes ces aventures, toutes ces mésaventures sont irrémédiablement vouées à l'oubli si jamais je ne les raconte pas, si jamais je ne les couche pas sur papier.
Et, puis...
En réalité, si j'écris sur mes voyages, c'est parce que je crois que dans quelques années, si je n'ai pas écrit sur ces voyages, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Donc j'essaye de leur donner une existence.
Ça me rappelle une très belle phrase d'Annie Arnaud.
Que j'ai déjà cité en interview aussi, ouais.
Ah bah voilà.
Ouais. En épigraphe du jeune homme.
Voilà, c'est
où
ça.
Elle parle de ses amours.
Et si elle dit, je n'écris pas les choses.
Ouais. C'est comme si elle n'avait pas été vécue.
Voilà.
Et ben je pourrais la reprendre mot pour mot et dire exactement la même chose, mais simplement en la mettant en la glissant sur le terrain du voyage.
Alors on est bien sur un carnet de voyage, on n'est pas sur un roman, et pourtant il y a une ellipse romanesque. Vous d'ailleurs vous prenez votre lecteur, vous amusez aussi avec votre lecteur, vous faites quand même rire à des moments. Ça, je laisserai le soin de ceux qui nous écoutent de le découvrir. On pourrait croire parfois que le romanesque apparaît un peu en pointillé dans votre carnet de voyage. Comment, dans ce texte, précisément, la frontière entre la fiction et le réel fait littérature ?
Bah, en réalité, il y a une seule scène qui est purement fictive. Mais je dis dans le livre, alors je ne dis pas laquelle, mais je dis qu'il y a une scène qui est de la fiction, une scène que j'ai inventée. pour les besoins du livre. Je vous laisse le soin de trouver
de
laquelle.
Trouver, bien sûr.
Vous avez peut-être quelques hypothèses. Mais ce que je raconte m'est réellement arrivé. Maintenant, il est vrai que j'essaye d'être fidèle à mes souvenirs et parfois je me demande si mes souvenirs sont très fidèles à la réalité. Et en réalité, lorsque vous écrivez sur votre voyage, tout tient à la manière, à la façon dont vous allez les raconter, dont vous allez raconter le voyage, dont vous allez raconter ce qui vous est arrivé. Si vous vous... je sais pas, moi, à un moment, je me retrouve dans un bidonville de Lima et je suis mordu par un chien. Bon, bah, si vous dites que vous êtes mordu par un chien, il se passe pas grand-chose, en fait. Mais si vous expliquez que parce que vous avez été mordu par un chien, et bah, après, vous allez vous désinfecter la jambe chez un coiffeur du bidonville, qui ensuite a sorti un menu plastifié en vous montrant les coupes de joueurs de football, en vous demandant... En vous disant, bah maintenant, puisque vous êtes là, est-ce que vous voulez pas une petite coupe, et qu'il vous a proposé de vous couper les cheveux à la manière de Neymar ou de Pogba, et que vous lui avez dit, moi, vous savez, en matière capillaire, je suis plutôt conservateur, et que déçu par votre manque d'audace, il est décidé de vous couper les cheveux de manière très nonchalante, en tenant le ciseau d'une main et en jouant sur son téléphone de l'autre, ce qui a donné une sorte de désastre capillaire que vous avez dû faire rattraper un mois plus tard chez un coiffeur de Bogota, qui, vous voyant arriver à rameuter ses collègues, un peu comme un professeur de médecine rameuterait les internes devant un cas d'école, en vous demandant qui est responsable de ce désastre et que vous dites que tout ça est à cause d'un chien, bah, voilà, tout ça c'est une manière de raconter une mésaventure.
Et ça fait rire le lecteur.
Oui, et surtout, mon but n'est jamais de faire rire le lecteur. Je crois que le meilleur moyen de s'épargner le rire de lecteur, c'est en cherchant à le faire rire. Simplement... lorsque je ne peux pas m'empêcher c'est devenu ma façon d'écrire, c'est une pente en quelque sorte qui m'est devenue naturelle, et il m'arrive de raconter lors de mes pérégrinations et même dans mes romans des scènes qui peuvent être assez dures, assez poignantes, qui peuvent susciter chez moi un très fort sentiment d'accablement et même d'injustice, et j'essaye de ne pas les lester d'une gravité supplémentaire en ayant une plume de plomb. Donc j'essaye toujours de garder une certaine forme d'allégresse, d'autodérision, d'ironie qui plane là-dessus.
Votre carnet de voyage, c'est aussi et avant tout écrire sur le Che.
Dans ce voyage-là, enfin dans Chagrin d'un chant inachevé, finalement, le lecteur qui croirait trouver une biographie déguisée du Che serait assez déçu.
Et justement, c'est ce que vous écrivez. Vous dites qu'écrire sur le Che, c'est écrire entre le blanc des précédentes lignes qui ont déjà été écrites sur lui.
Par les autres, ouais.
Donc finalement, est-ce que ce carnet de voyage est aussi une façon pour vous de ne pas vouloir écrire sur lui ?
Mais moi, il y a eu des biographies sur lui. Il y en a eu des très bonnes. Il y en a eu très à charge aussi, hein, parce que le Che a été dépeint par ses détracteurs de manière très noire. Hein. On a l'impression qu'il y a des biographies qui ont été... écrit par Pierre Soulages, quoi, tant ils ont noirci le tableau. Mais moi, mon ambition n'était pas du tout d'écrire sur Che Guevara. Ce qui m'intéressait, c'était le jeune Ernesto Guevara, avant qu'il ne devienne le Che. Hein. Parce que Che, tu sais, c'est une interjection argentine qui revenait si souvent dans sa bouche, une sorte de ponctuation, qui revenait si souvent dans sa bouche que les Cubains la lui ont donné pour surnom. Mais à l'époque où il voyage, il ne s'appelle pas encore le Che, il n'est pas encore un révolutionnaire, il n'est pas encore l'icône révolutionnaire qu'il est devenu par la suite, il n'a pas encore... Il n'est pas encore mort à La Higuera en Bolivie à l'âge de 39 ans d'une rafale de fusil mitrailleur dans le ventre. Et il n'est qu'un jeune homme, qui fait un voyage et qui veut vivre une aventure. Et moi, c'est ça qui m'intéressait.
Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette figure du jeune homme qui n'est pas encore le Che qu'on connaît tous ?
Bah, elle m'inspire que la vie est pleine de... C'est-à-dire que si vous planifiez votre vie, ce qui est souvent le cas lorsqu'on a la vingtaine, où on se demande ce qu'on va faire dans la vie, on essaye de tracer un chemin, de le baliser même. Et finalement, lorsque vous faites des plans, eh bien, le destin, ou Dieu, je ne sais pas comment on peut l'appeler, les hasards, parviennent toujours à les déjouer. Et qu'il faut savoir se laisser porter au gré des hasards. Et Guevara, qui avait prévu à l'âge de 23-24 ans, donc à votre âge, de passer sa vie à parcourir le monde, finalement, il ne l'a parcouru que l'arme à la main pour essayer de faire tomber des régimes dictatoriaux.
Vous nous avez raconté l'Iran dans L'usure d'un monde, votre précédent carnet de voyage. Aujourd'hui, l'Amérique du Sud, les hommes changent au fil des voyages.
tout comme le Che, qui s'est découvert, qui s'est révélé. Aujourd'hui, François-Henri Désérable, est-ce que vous savez ce qui a changé en vous ?
Lors de ce voyage sud-américain, ce qui a fondamentalement changé, c'est que j'ai pris goût au voyage. Et c'est qu'aujourd'hui, ma vie s'articule autour de la lecture, autour de l'écriture, qui sont fondamentaux pour moi, qui sont devenus comme inspirés et expirés, mais aussi beaucoup autour du voyage. C'est-à-dire que je passe chaque année plusieurs mois sur la route, que ce soit pour écrire sur mes voyages ou que ce soit pour écrire mes romans en voyage. Je crois que, vous savez, il y a cette phrase de Pascal que je trouve complètement con, et je suis un peu navré de m'attaquer
J'aime
à ce si grand philosophe.
Parler.
Mais il dit que tous les malheurs des hommes viennent de ce qu'ils ne parviennent pas à se tenir en place dans leur chambre, en quelque sorte. Eh bien moi, je crois fondamentalement le contraire. Je crois que la vision du monde la plus dangereuse, la plus étriquée, la plus pernicieuse, vient le plus souvent de ceux qui n'en ont rien vu. Et rassasier cette curiosité de découverte du monde, être constamment mu par un inlassable désir de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres régions, d'autres contrées, de rencontrer d'autres personnes, de se confronter à l'altérité, d'être à l'écoute de la multiplicité, de la complexité des voies du monde, c'est peut-être le meilleur moyen d'essayer d'en comprendre quelque chose.
Quel est votre chagrin de choix inachevé ?
Mon chagrin ? Il y a évidemment des endroits dans lesquels je sais que je ne suis pas sûr de retourner. Et je me dis, quel dommage que ces endroits-là existent. Et finalement, non, je vais vous dire, en fait, je crois que mon chagrin, c'est de ne pas pouvoir me multiplier. J'ai un véritable FOMO, une sorte de fear of missing out, comme vous dites dans votre génération, dont je me distingue parce que j'ai 15 ans de plus. Mais j'ai envie de vivre une multiplicité de vies. Là, je suis à Paris avec vous, à Montparnasse, mais en même temps, j'aimerais être en Syrie. J'aimerais être à Damas. Là, j'aimerais être à Téhéran aussi. J'aimerais être en Ukraine. J'aimerais être à Budapest. J'aimerais être à Cusco. J'aimerais être à New York. J'aimerais être à Saint-Pétersbourg en juin. Saint-Pétersbourg en juin, c'est extraordinaire. Et donc, mon chagrin, je crois, c'est de ne pas pouvoir me démultiplier pour pouvoir éprouver cette existence au carré ou au cube.
Vous m'avez pas parlé de Nicolas Bouvier ?
Ouais, mais parce que j'en ai beaucoup, beaucoup parlé dans plein d'autres interviews, mais je peux vous en parler.
On dit souvent que la littérature est le premier des voyages.
Ouais.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
C'est vrai que moi, lorsque j'ai voyagé en Iran pour l'usure d'un monde, je partais sur les traces de Nicolas Bouvier. Là, je suis parti en Amérique du Sud sur les traces d'Ernesto Guevara. Et donc, il m'a fallu un prétexte, mais en deux mots. C'est-à-dire qu'il y a toujours un texte que j'ai lu et qui a préexisté à mon désir de voyage. C'est-à-dire que le désir de voyager dans ces contrées est né de la lecture de quelqu'un qui y avait voyagé avant moi et qui avait conté son expérience. Et donc la littérature est très féconde de ce point de vue-là. Et qu'est-ce que je lis en ce moment ? J'ai découvert un écrivain absolument formidable qui s'appelle Geoff Dyer, D-Y-E-R, qui m'a été conseillé par ma libraire de la librairie des Abbesses, qui m'a aussi été conseillé par son éditeur aux éditions du Sous-Sol qui s'appelle Adrien Bosque, et qui m'a aussi été conseillé par Emmanuel Carrère, qui est l'un des plus grands admirateurs de cet écrivain. Je crois que Carrère a même lu, m'a dit Bosque, les livres de lui qui ne sont pas encore traduits en français. Donc pour l'instant, je lis d'ailleurs. Je lis beaucoup aussi Svetlana Alexievitch en ce moment, prix Nobel de littérature, biélorusse, à qui on doit notamment La fin de l'homme rouge, qui est l'un des livres les plus beaux pour comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Et puis je lis des livres de la rentrée littéraire. Là, je commence à lire des livres de la prochaine rentrée parce que j'ai des amis qui publient à la rentrée et qui me font l'obligeance et l'amitié de m'envoyer leurs livres. Et donc là, j'étais en train de terminer le prochain livre d'Emmanuel Carrère qui s'appelle Kolkhoz. Et je vais entamer celui de Maria Pourchet, qui est une amie qui m'est chère et qui en plus est une écrivaine pour qui j'ai beaucoup de, beaucoup d'admiration. Elle a vraiment forgé une langue qui lui est propre, qui est la sienne. Et c'est moi ce qui m'intéresse le plus dans la littérature.
Et nous aurons l'occasion de les retrouver à cette rentrée littéraire.
Eh ben, ouais, bah oui. Voilà, en août.
On va les lire.
Voilà.
Merci beaucoup, François-Henri Desjardins.
Je vous en prie.
Je vous souhaite de très beaux voyages.
Moi aussi, je vous souhaite de vous retrouver
pour votre prochain carnet
moi
de voyage.
Moi aussi, et je voudrais simplement parler de juste dire la phrase qui est en épigraphe de Chagrin d'un chant inachevé.
Allez-y.
C'est une phrase de Jack London dans La croisière sur le Snark, où il a cette phrase magnifique. Il dit: pourquoi ne pas partir tout de suite? Nul d'entre nous ne sera jamais plus jeune qu'aujourd'hui. Et bien ça, je crois que lorsqu'on a votre âge particulièrement, il faut l'avoir à l'esprit.
Et heureusement, l'été arrive, donc je vais pouvoir bouger.
Et ben voilà, je vous souhaite de bouger.
Merci beaucoup, François-Henri.
Je vous en prie.
Chagrin d'un chant inachevé sur la route de Che Guevara est publié aux éditions Gallimard dans la collection Blanche, que vous pouvez bien sûr retrouver en librairie indépendante depuis mai 2025. Ainsi va la littérature et s'achève cette dernière chronique de la saison 4 de la librairie des étudiants. Je suis très heureux d'avoir continué avec vous ce voyage littéraire tout du long de ces chroniques, de ces entretiens et de tous ces chapitres. Je veux très chaleureusement remercier les équipes de Radio Campus Grenoble 90.8, à commencer par Claire Lee pour leur soutien et leur énergie pour continuer à nous grandir avec la littérature. Merci à tous les auteurs et toutes les autrices que j'ai pu recevoir pour être venus à ce micro. Ça a été un grand privilège pour moi de m'entretenir avec vous et je vous en suis très reconnaissant. Ces entretiens ont aussi été possibles avec le travail en synergie des directeurs littéraires, des attachés de presse ou les organisateurs des festivals littéraires et je tiens aussi à les remercier ici. Les chroniques de ces lectures sont aussi source d'échanges avec vous, que ce soit par message ou autour d'un café. Je tiens à vous remercier, amis auditeurs et auditrices, pour ce partage d'idées et de découvertes littéraires, toujours avec cette même passion qui nous anime. Et par ailleurs, je veux aussi remercier les libraires pour leur encouragement, leurs conseils, leur regard sur la littérature qui repousse sans cesse nos horizons de lecteurs. Dès le 23 juillet, je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour découvrir 5 portraits de libraires parisiens. Ces entretiens de l'été sont pour moi une façon de remercier ces libraires que j'ai pu rencontrer lors de mes études à Paris, dans ces lieux uniques et singuliers que j'espère vous faire découvrir et que j'espère aussi vous faire aimer. D'ici là, quelques vacances radiophoniques s'imposent pour moi, le temps de lire, de voyager, de travailler aussi, avant de vous retrouver en septembre prochain pour une nouvelle saison littéraire radiophonique que j'espère de tous mes voeux très riche en rencontres et en partages. Je pars avec le plaisir d'avoir partagé mes lectures, mes découvertes, avec ce bonheur de continuer à travailler dans deux univers que j'aime, la littérature et la radio. Je vous souhaite de passer un très bel été, du courage pour celles et ceux qui, comme moi, travaillent, et le plaisir de voyager pour ceux qui le peuvent. Je vous souhaite un très bel été, entouré de ceux que vous aimez, et surtout, le plus important, je le crois, et vous le savez depuis tout ce temps, je vous souhaite d'avoir de belles lectures.